Bon, eh ben, je vais vous parler donc de médio-poétique et de poésie sonore. Avec cette, d'abord, je peut-être ça gênera quelques-uns, mais je ne lis pas de paper. Hein, donc, c'est une conversation plus ou moins improvisée, une tentative orale, pour le dire en termes plus littérairement consacrés. Hein, je fais comme ça maintenant. Et ça a une pertinence par rapport à ce que je vais raconter, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question, pour moi, hein, de pertinence médiologique, de ne pas lire à haute voix un papier écrit. Ah, bon, je suis déjà dans le vif du sujet, en fait. Pourquoi ça ? Parce que je suis en train de mettre au point une espèce de théorie, voilà, une approche, disons, de la poésie, qui prend en compte le plus pleinement possible la question du médium, c'est-à-dire une approche, si on veut, médiologique de la poésie, mais aussi une approche des potentialités poétiques du médium. Donc, c'est vrai. Et étant entendu, premièrement, je vais l'illustrer d'un exemple qui n'est pas poétique en soi, et c'est normal, puisque quand je dis médio-poétique, c'est un peu au sens d'Aristote, hein, c'est pas la poésie, c'est pas limité à la poétique de la poésie, hein, on peut faire la médio-poétique de la musique, des arts plastiques, etc., etc., hein. Voilà. Alors, étant entendu que je n'emploie pas le terme médium au sens des médias, donc je distingue le média et les médias, c'est-à-dire TF1 ou la presse R100, hein, du médium, c'est-à-dire la vidéo, le papier imprimé, typographié, hein, ça c'est ce que j'appelle médium, sans accent sur le « et ». Je reprends le mot latin ou anglais, si vous voulez, hein, puisque je conserve « médium » avec l'accent aigu au mec qui converse avec les esprits, hein, c'est-à-dire celui qui se passe précisément de médium, hein, pour communiquer. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a une terminologie complètement fluctuante et flottante depuis qu'on parle de médium et on ne sait plus de quoi on parle. Hein. Est-ce qu'on parle de TF1 ou est-ce qu'on parle de la vidéo ou de la télévision comme médium ? Voilà. Alors, deuxièmement, avec cette idée qui m'est venue au fur et à mesure, quand je dis au fur et à mesure, c'est-à-dire que je suis pas arrivé en me disant je vais faire une théorie médio-poétique, c'est à force de travailler sur, notamment sur la poésie sonore, mais pas seulement, que je me suis aperçu que dès que le médium, comme je vais essayer de le définir, intervient dans une œuvre poétique, alors quelquefois on lui fait un sort, quelquefois pas, mais même quand on lui fait un sort, on ne l'intègre pas dans l'élucidation de la du texte. On en a eu un exemple tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais très content. Hein, si vous prenez un calligramme et que vous ne prenez en considération que le matériau verbal, lexical, syntaxique, vous zappez complètement, hein, ce que, éventuellement, le médium typographique tel que Apollinaire l'a utilisé dit, n'est-ce pas ? Quel est le rôle du médium typographique dans la construction du sens qui ne saurait se limiter à l'arrangement lexico-syntaxique ? Voilà, hein. Donc ça, c'est la première chose, et ça vaut pour la versification. Hein. Combien de manuels et traités nous disent, voilà, c'est un sonnet régulier, les quatrains sont comme ci, comme ça, les rimes sont comme ça, et après, passons aux choses sérieuses, hein, et analysons la syntaxe et la rhétorique, et bye-bye le rôle de la versification dans cette affaire. Or, la versification, ça fait aussi partie du médium. Quand je parle, c'est du médium. Quand je vous parle, c'est du médium. Quand nous nous parlons comme ça, c'est, hein, on le voit très bien, un certain type de médium. Si je vous parle dans le micro, ça rajoute éventuellement quelque chose. Hein. Si j'avais écrit un paper, ça serait très différent. Donc, voilà. Alors, ceci, on peut le dire plus savamment, depuis que des philologues ont établi à quel point le fait que, par exemple, les poèmes homériques résultent d'une composition orale, combien cela réagit sur précisément les choix lexicaux, syntaxiques, l'arrangement des mots, l'arrangement éventuellement oui, des mots, parce que si vous voulez faire un hexamètre dactylique, eh ben, il faut que vous ayez les mots qui correspondent, hein, avec les longues, les brèves, etc. Donc, combien la construction du sens dans ces... alors, je n'ose pas dire littérature orale, parce que, précisément, c'est pas une très bonne terminologie, donc il faut le remplacer par orature. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Hein. Orature, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça existe depuis longtemps. Donc, dans l'orature, la composition orale implique une certaine organisation syntaxique, implique certains choix lexicaux, donc participe à la construction du sens, que le poète en soit conscient ou non, qu'il en soit plus ou moins conscient, qu'il en soit plus ou moins content, qu'il se sente contraint, c'est plutôt de l'ordre de la contention que de la contrainte, hein, mais il peut rajouter des contraintes, s'il le veut, par-dessus. Bon, voilà, ça c'est un exemple. L'autre chose que je veux dire en avant-propos, c'est que j'en suis arrivé à cette idée que rien n'est médium en soi et que tout peut être médium. C'est-à-dire, et c'est là que je distingue médium de support, n'est-ce pas, hein. Un support n'est médium qu'à être investi par une intention signifiante, qu'elle soit individuelle ou collective, hein, et à ce qu'il, ce support, prend comme fonction, une fonction d'inscription, de communication, de stockage, de transmission, enfin tout ce qu'on veut. Et je vais prendre un exemple très simple, mais qui me semble assez parlant. Prenons les rochers du mont Rushmore aux États-Unis d'Amérique. Hein. C'est pas un médium. Hein. C'est un bloc de rochers qui domine un espace plus plat. Arrive un projet des sculpteurs, enfin voilà, et que devient ce mont Rushmore, hein, quatre énormes visages de présidents des États-Unis d'Amérique, hein, les quatre premiers présidents d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était un pur donné physique, hein, géophysique, est investi de forme, premièrement, et de signification. Il est clair que ça veut signifier la grandeur des premiers créateurs de la démocratie américaine. On ajoutera blanche, car ça se situe dans un territoire indien, hein, et je pense qu'en ce moment, les Indiens, c'est peut-être fait, je ne sais pas, ont exigé qu'il y ait... sur un autre rocher, hein, un hommage à un grand chef indien, hein, effectivement. Et c'est là qu'on voit à quel point ce pur donné géophysique est devenu un médium, hein, dans tous les sens du terme, hein, puisqu'il y a inscription de sens, il y a évidemment volonté d'exposer un sens, de le transmettre, hein, et ce sens ne fait pas forcément l'unanimité. Voilà. Donc on a un médium. Et ce médium signifie aussi la conquête du grand espace, hein, vers l'ouest, c'est-à-dire qu'on a bien support, forme, support, espace, faisant médium. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de me situer. Mais imaginez que une bande de cinéastes débarque, hein, avec Alfred Hitchcock en tête et tourne une séquence bien connue, hein, c'est la fin de La mort aux trousses, hein, qui se passe censément sur le mont Rushmore. Hein. À ce moment-là, ce médium, déjà, hein, est recyclé, hein, pour raconter autre chose. Hein. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler un recyclage médiologique et médiopoétique, si on parle là de poétique du cinéma. Hein. Ça conserve le caractère héroïque, mais avec l'humour de Hitchcock conjugué à celui de Cary Grant, hein, et ça aussi une dimension érotique. Hein, on arrive à la fin du film. Et donc, on a un changement de sens. Et puis, dernier acte, si on veut, hein, imaginez une bande de musiciens de rock qui font leur... c'était plutôt des musiciens de blues, de progressif, etc. Et tout d'un coup, ils décident de faire un vrai album de rock. Hein, ils changent complètement de style et ils reprennent l'image des présidents américains taillés dans le Mont Rushmore et ils mettent à la place leur propre visage, n'est-ce pas ? Et ils mettent « Deep Purple in Rock hein ». Donc là, on voit à quel point ce médium hein, change encore de signification en empilant certaines des significations du médium précédent, donc nouveau recyclage, avec le jeu de mots. Hein, donc il utilise aussi à plein le médium linguistique hein, sur, évidemment, rock et rock. Hein, donc voilà, et c'est une des couvertures les plus, enfin, les plus célèbres de l'histoire du rock. Hein, voilà. Deep Purple in Rock. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, ce rocher qui ne demandait rien à personne, hein, qui n'était le médium de rien, qui n'était même pas le support de quoi que ce soit, hein, devient véritablement le médium d'un empilement d'intentions signifiantes hein, qui peuvent continuer. Voilà. Donc, il y a une chaîne, en quelque sorte, médiologique. Alors, maintenant, on va essayer d'en arriver à la poésie. Voilà. Donc, on peut remonter ça. Et pour parler de ces questions, eh bien, je vais d'abord vous faire écouter 3 minutes d'une pièce sonore hein, de ma copine Cosima Weiter. C'est une de mes anciennes étudiantes hein, qui fait de la poésie sonore, enregistrée, scénique, qui écrit du théâtre, etc. Et donc, c'est une pièce qui est extraite d'un album qu'elle a publié récemment. Ça a été publié au GMVL, groupe de musique vivante de Lyon. Hein. Et le disque s'appelle « Ici » et le morceau s'appelle « Écrit avec la langue hein. ». Normalement, il est en route. Il n'y a qu'à appuyer.
Vous m'entendez ? Vous entendez ? Vous m'entendez ? Vous entendez ce que je dis ? Vous voyez ? Vous entendez ce que je veux dire ? Voyez ma bouche. Vous l'entendez ? Est-ce que vous entendez ma bouche ? Les mots qui sont dans ma bouche. Vous entendez ma bouche ou ce qui sort de ma bouche ? Dites, ce qui sort de ma bouche, c'est de l'air ou des mots ? Vous entendez ce que dit ma bouche ou ce que je dis moi ? Vous entendez ? Qu'entendez-vous par là ? Quand vous regardez ma bouche, vous voyez ma bouche, toute ma bouche ou juste mes lèvres ? Mes lèvres. Vous les voyez ? Vous entendez mes lèvres ? Vous entendez mes lèvres ? Vous lisez sur mes lèvres ? Vous lisez les mots sur mes lèvres ? Les mots que je dis sur mes lèvres ? Lisez-vous les mots écrits sur mes lèvres ? Vous les voyez les mots ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mes dents dans ma bouche, vous les voyez ? Si je claque des dents ? Si je claque des dents, vous entendez juste mes dents claquer ou vous comprenez que j'ai froid ? Ma langue dans ma bouche derrière mes lèvres et mes dents, vous m'entendez ? Parlons-nous la même langue ? Est-ce que vous avez la même langue que moi ? Faisons-nous langue commune ? Parlez-vous dans ma langue ? Parlez-vous dans ma bouche ? Parlez-vous dans ma bouche derrière mes lèvres et mes dents ? Est-ce que je vais sentir ma langue remuer dans ma bouche si vous parlez votre langue dans ma bouche ? Ma langue est-elle aussi dans votre bouche ? Ma langue parle-t-elle dans votre bouche ? Est-ce qu'on peut parler avec chacun sa langue dans votre bouche ? Est-ce qu'on parle tous avec sa langue dans la bouche des autres ? Est-ce qu'on parle tous de la même bouche ? Tous la même bouche ? Est-ce qu'on parle tous en même temps ? Disons-nous tous la même chose en même temps avec la même langue ? Est-ce qu'on s'entend mieux ?
Voilà, on peut arrêter. Le morceau est assez long, donc on va pas l'écouter jusqu'au bout. Alors voilà, donc je crois que il y a un certain nombre de choses qui sont déjà claires dans ce qu'on a entendu. Hein, c'est que visiblement il y a un texte qui est écrit. Hein, donc on peut dire qu'il y a un arrangement du matériau syntaxique, du matériau verbal, hein, avec des phrases qui font sens, etc., etc. Mais que on se dit quand même assez rapidement que ce qu'on est censé entendre, puisque c'est le mot qu'elle emploie, évidemment, en jouant sur le double sens, n'est pas entièrement compris dans le matériau verbal, et que c'est peut-être même pas ça le plus important, comme l'indique le tout début, où on a la respiration. Hein. On a la respiration qui est mise en avant, hein, on l'a très bien entendu, on l'entend tout le long du texte, qui se surajoute. Et il n'y a pas que la respiration, il y a même une espèce de tremblée de la voix, hein, en même temps qu'une espèce de d'agressivité à certains moments, hein, de la diction. Et évidemment, tout cela ne transparaît pas dans la version typographique, et donc n'appartient pas au matériau verbal, c'est-à-dire au texte tel qu'on le définit le plus souvent, mais on voit bien qu'il serait fâcheux, hein, de définir le texte comme simplement l'agencement de ces phrases et le signifié de ces phrases, hein, et de leur enchaînement. C'est pourquoi j'avais il y a assez longtemps, dans mon travail sur Bernard Heitzig, proposé la distinction entre « texte entre guillemets », ça désignait l'ensemble du matériau verbal, et « texte en italique », c'est-à-dire vraiment le texte, hein, c'est-à-dire le texte entre guillemets plus tous les éléments sonores, comme par exemple ici, alors on pourrait rajouter bien sûr la superposition, hein, de la voix, donc en deux pistes, et puis on pourrait aussi ajouter le fait que c'est ça se livre comme un enregistrement, n'est-ce pas, hein, et que par conséquent l'enregistrement rajoute lui aussi, hein, peut-être quelque chose au sens. Alors j'ai choisi, on pourrait raisonner sur beaucoup de textes de ce genre, alors j'emploie véritablement le mot texte pour désigner l'ensemble, je ne m'embarrasse plus de entre guillemets et italique, comme on le faisait, je ne sais pas si on continue à le faire dans les études cinématographiques, on parlait du texte filmique, hein, ça voulait dire, évidemment, ça ne voulait pas dire seulement l'enchaînement des paroles, hein, c'était l'ensemble, les images, les sons, voilà. Hein. Donc, c'est la première chose que je voulais faire entendre, c'est que il y a une différence entre le entre guillemets texte constitué par le matériau verbal et le texte en italique qui est constitué de quand même de beaucoup de choses. Alors, c'est pourquoi j'avais distingué entre un certain nombre de couches et de zones à l'intérieur du médium. Je me dis que je suis en train de vous parler comme elle parle, n'est-ce pas, et vous entendez ma voix qui profère des choses, mais vous vous dites suivons ce qu'il nous raconte, ce qui compte c'est le sens, c'est pas sa voix, hein. Donc vous allez chercher dans une couche médiologique que j'appelle le sémiomédium, hein, étant entendu que je ne sais pas de quoi il est le médium. Hein. Ce sémiomédium, on voit bien qu'il est contenu dans et manifesté par autre chose. Alors, à l'oral, par exemple, hein, il est manifesté par ce que on peut appeler, si on veut, le phonomédium, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne la voix, hein, la profération, ce qui manifeste ce sémiomédium. Car le sémiomédium, nous savons bien que si nous voulons le manifester, il faut soit l'écrire, soit le parler. Hein. On n'a pas le choix. Sinon, on peut, comme le remarquait Saussure, n'est-ce pas, à juste titre, se réciter des vers ou se dire des phrases mentalement, ce qui montre, cela étant dit, hein, que le sémiomédium est difficilement distinguable de ce que j'appelle le biomédium, c'est-à-dire le vivant, et notamment de cette partie du biomédium qui est les zones du cerveau, hein, dans lesquelles se trafique la parole. Voilà. Donc il y a du biomédium, je ne l'ai pas mis là, mais il faudrait évidemment le mettre. D'ailleurs, je suis là devant vous, vous êtes là à m'écouter, et du biomédium, il y en a pas mal. Hein, il y a tous les organes de la parole, les zones du cerveau concernées, et puis il y a les organes de l'ouïe, de la réception, les zones du cerveau concernées. Et puis quand même, si je fais des grands gestes, hein, comme j'aime bien faire, vous les remarquez, etc. Donc tout ça participe effectivement du biomédium. Hein. Donc ça, c'est évidemment ce dont la typographie ne peut pas rendre compte, comme l'a remarqué Apollinaire au moment de l'enregistrement du Pont Mirabeau, hein, puisque et de deux autres poèmes en 1913, hein, puisqu'il a écrit deux petits articles là-dessus où il dit entre autres que lui-même a très mal lu son poème. Hein, parce qu'il n'a pas su profiter de ce support ou de cette technologie ou de ce médium nouveau qu'était le phonographe. Donc il y a une lucidité d'Apollinaire là-dessus qui résulte de son échec hein, face au phonographe. Donc le phonomédium va évidemment donner lieu à du phonotexte. Par exemple, Cosima Weiter disant ce texte sur une scène, hein, c'est du phonotexte ou du vocotexte, hein, ou du vocitexte quand c'est crié et vociféré. Hein, par exemple, si on a les cris rythmes de François Dufresne, hein, on est plutôt dans le vocitexte que dans le vocotexte. On peut dire ça, comme ça. Hein. Donc je l'appelle texte, même s'il n'y a aucun mot. Alors, pour continuer dans sur cette voie, on peut écouter mon camarade Sébastien Lespinasse. Alors, donc, voilà, c'est la génération des 40 ans. Hein. Sébastien Lespinasse, qui est un excellent connaisseur de toute la tradition de poésie, phonétique, etc., et qui développe une œuvre assez importante, scénique et enregistrée. Et donc là, c'est, je crois, que c'est le 4, hein, c'est la piste 4, et donc c'est un texte qui est intéressant parce qu'il s'appelle Script, mais cri étant écrit en capital, hein, voilà, donc Script. Voilà, donc il y a le cri, hein, c'est-à-dire le voici texte, hein, et il y a le script. Hein, qui est le texte écrit, hein, c'est-à-dire le graphotexte. Et il montre, évidemment, le titre, simplement, hein, montre comment le vocitexte ou le vocotexte, parce qu'il y a un petit peu des deux, vous allez voir, il y a des mots, etc., émane de l'écriture. Hein, donc, voilà, il y a une dynamique comme ça qu'on va entendre. Voilà, Sébastien Lespinasse, script.
Thank you.
Voilà, donc ça c'était l'espinasse. Alors, je vous le fais écouter parce que c'est un peu un manifeste hein, de sa part. Et ça met en avant, évidemment, beaucoup plus que dans le Cosima, hein, la dimension bio. Hein, c'est vraiment là, le corps participe complètement à la profération ou vocifération. Hein. Donc, on est dans la vocature, je vais employer ces termes-là après. On a affaire à un vocotexte ou à un vocitexte. Mais on reconnaît du sémio quand même, hein, vous voyez. Donc il y a cette idée qui est présente, je crois aussi, de souvent chez Bernard Hetzig et chez quelques autres, que même le discours le plus argumenté, le plus socialisé repose sur des bases qui sont des bases bio, des bases de phonatoires, hein, et en deçà, alors voilà, ici qu'est-ce qu'on a, en deçà de toute articulation, hein, et c'est là qu'on peut peut-être retrouver les particules, n'est-ce pas? Parce que quand il dit je voudrais tout écrire en cristal de cri, etc., c'est à peu près la phrase qui se ramifie d'ailleurs hein, au cours de l'exécution du texte. Il y a donc une dimension donc qu'on peut appeler sémiotexte et qui est véhiculée donc par la voix, par tout le corps. Et qui relève quand même de ce que Martinet et les autres appellent la première articulation. Hein. Mais ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Et donc, on voit bien que ce qu'il veut mettre en scène, et c'est le cas de le dire, puisque hein, là, on a la version audio, mais ça, c'est très proche des versions scéniques qu'il donne, on a une traversée de toutes les couches. Hein. Ouais, évidemment que à certains moments, on ne reconnaît plus que du phonème, mais même on peine à reconnaître du phonème, on est plutôt dans le phonétique que dans le phonologique, et même on est plus dans le phonatoire, hein, dans la poussée, que dans la formation réelle de quelque chose qui devra apparaître comme un phonème, et même qu'on est peut-être même en dessous, hein, on est dans le pur bruit corporel. D'ailleurs, il s'arrange à l'enregistrement ou avec le micro hein, pour faire entendre véritablement ce qu'on peut faire entendre grâce au micro. Et c'est là que je vais essayer d'être un petit peu plus précis, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est médiologique, par exemple l'usage du microphone, n'est pas forcément médiopoétique. Pour qu'il soit médiopoétique, faut qu'il soit reconnu intéressant poétiquement, hein, c'est-à-dire que le poète, d'une manière ou d'une autre, explore ou exploite les potentialités poétiques, par exemple, du microphone. C'est ce que fait beaucoup Michel Métaille, dont il a été question ce matin, hein, qui n'est pas une vocifèreuse, hein, elle est plutôt une chuchoteuse ou une diseuse, assez calme, quoique à certains moments, elle s'énerve, en vertu de grilles de lecture qu'elle se donne, hein, dont il était rapidement question ce matin. Et alors ça, c'est très intéressant, parce que ça permet évidemment de distinguer ce type de lecture, utilisant par exemple le microphone, ou de lecture enregistrée, de l'orature, c'est-à-dire de la façon dont les textes sont proférés et donc composés dans la tradition orale. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que combien de fois je me suis entendu dire « mais la poésie a toujours été sonore, etc., etc. Hein, Homère, les troubadours, bon. » Or, non. Elle n'était pas sonore, elle était orale. Hein, donc nous avons quelque chose de très différent. Et alors, je suis assez content d'avoir entendu Michel Métaille dans une émission de 1978, mais qu'on peut entendre, qu'on peut réentendre actuellement sur France Culture. C'était Poésie ininterrompue, hein, et elle était interviewée par Bernard Hetzig. Alors, elle dit un certain nombre de choses qui sont capitalissimes pour bien comprendre l'esprit de la médiopoétique, enfin telle que j'essaye de la mettre au jour. Par exemple, Heitzig lui demande, qu'est-ce que vous ajoutez au texte écrit, hein? Alors elle dit, c'est pas ajouter, c'est pas, je n'aide pas, parce que Heitzig a ce mot comme ça, ce verbe, je n'aide pas, c'est ce qu'il veut lui faire dire, hein, bien sûr, je n'aide pas le texte, entre guillemets, dirions-nous, en le lisant d'une certaine manière, il est fait pour être lu, dit-elle, hein. Le texte écrit, c'est un aide-mémoire. Alors, il est fait pour être lu, c'est ça qui est très, très important, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse le médiopoéticien que je suis, par exemple? C'est le degré d'intégration de ce que sera la lecture, soit scénique, soit audio technique, soit audio scénique, hein, par exemple dans un micro avec un ordinateur qui transforme la voix, hein, mais live quand même. Voilà, on est dans l'audio scénique, hein, donc ça donne un audio scénotexte. Hein. À quel degré de l'élaboration de l'œuvre est-ce que tout cela est intégré? Ça peut être intégré à la dernière minute. Ça peut ne pas être intégré par l'auteur. Par exemple, Apollinaire n'avait pas intégré la dimension de mouvement, hein, que nous pouvons intégrer maintenant grâce au numérique. Ou bien, alors, il a intégré ça depuis le début. Alors, objection, l'intention de l'auteur. Un, on peut s'en foutre. Deux, c'est pas très important. Non, mais tout ça. Cependant, il y a des moyens de le savoir, ne serait-ce que, par exemple, les partitions de Bernard Heitzig, hein, qui indiquent, assez souvent, pas toujours, par un certain nombre de ce qu'on peut appeler des didascalies, hein, l'intention qu'il a eue en écrivant tel passage, hein, ou bien... il livre l'action qui doit être faite, hein, pendant le défilement des bandes et pendant qu'il lit, etc. On aura un exemple tout à l'heure. Donc il y a aussi des marques. Hein, on peut faire comme avec le texte d'Homère, c'est-à-dire repérer dans la partition, dans le texte imprimé, c'est-à-dire le typotexte qui livre d'une certaine façon le sémiotexte, mais qui le livre déjà d'une manière particulière, hein, par exemple des textes sont en escalier, etc., hein, ou en deux colonnes, ou etc. Donc le typotexte déjà renseigne sur certaines caractéristiques qui sont pensées très en amont, hein, plus ou moins consciemment, bien sûr, hein, dans l'objectif d'un certain type de profération. Et ce type de profération intègre éventuellement la technologie, etc., et ne ressemble en rien au mode de composition, au mode compositionnel de la poésie orale. Hein, c'est pourquoi j'ai inventé des termes comme, alors il y a l'orature, hein, que les médiévistes ont beaucoup mis en valeur. Donc pour tout ce qui est typographique, etc., donc j'ai parlé de scripture, hein, chiroscripture quand c'est calligraphié, typoscripture quand c'est typographié, ou bien quand le mec calligraphie, mais en pensant à ce que ça donnera en typographie, hein, Rimbaud fait ça très bien, hein, il pense à la typographie, c'est clair, Apollinaire aussi. Et puis alors, on peut parler de phoniture, hein, pour la lecture au phonographe, on peut parler d'auditure pour la lecture avec toutes les technologies du son contemporaines. Alors, je suis pas sûr de vider machinture, hein, j'ai pas encore trouvé le terme. Numériture, on peut y penser, hein, etc. C'est-à-dire, numériture, c'est écrit pour, hein, même s'il y a du texte qui est composé, pourquoi pas à la main, hein, mais tout ça est écrit en vue de plus ou moins intégré. Hein. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire. Et alors, elle dit ceci, le texte écrit, c'est un aide-mémoire. C'est tout. Le texte écrit me sert à noter l'enchaînement des mots, c'est-à-dire ce que j'appelle le sémiotexte. Hein. Ce serait possible de le mémoriser, mais enfin, la tradition orale ne m'intéresse pas du tout, dit-elle. Michel Métaille, n'est-ce pas? C'est très intéressant qu'elle dise ça, non pas de façon méprisante, ne m'intéresse pas du tout pour mon travail à moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas, donc, dans ce que j'ai spécifié comme étant l'orotexte, c'est-à-dire le mnémotexte. Hein, cette histoire du rôle de la mémoire, hein, bien sûr, les modes de composition oraux, ils sont pas seulement oraux, ils sont mnémoniques ou mémoriels. Hein, c'est la composition et la transmission. Donc, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans l'orature, on n'est pas donc dans des orotextes ou des mnémotextes, on est dans l'auditure, à partir du moment où... Alors, à partir du moment où quoi ? Pas à partir du moment où on cause dans le micro. Hein, ça, c'est médiologique. C'est l'état de la société. La médiologie reflète l'état technologique d'une société. Mais, à partir du moment où on est conscient de ce que fait le micro... qu'on ne se contente pas de l'employer, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut amplifier, hein, mais qu'on utilise, par exemple, pour faire entendre, c'est ce qu'on n'entend pas d'habitude, ce que normalement il ne faut pas entendre, parce que tout ça est quelque peu asocial. Hein. Ce sont des tures qui sont moins socialisées, moins propres que, bien sûr, une belle typographie. Mais on peut aussi saloper délibérément la typographie, comme dans les livres de contre-culture, puisque je suis en train de lire une thèse sur les livres de poésie de contre-culture québécoise, hein, où le rôle de la mauvaise typographie, de la mauvaise reproduction des illustrations, joue un rôle considérable, n'est-ce pas ? Donc font partie du médium au sens où c'est ça qui communique quasiment l'essentiel du sens. Et quand je dis sens, je veux dire... un certain perlocutoire ou un certain performatif, hein, au sens de la théorie des actes de langage. C'est-à-dire, si on écoute la pièce de Cosima, ou encore plus, bien sûr, celle de Lespinas, on sent bien qu'il y a une dimension de commotion qui s'adresse à l'auditeur-spectateur, qui n'est pas lié au contenu, donc ça n'a rien à voir avec le locutoire et l'illocutoire. On est dans un perlocutoire, mais qui ne dépend pas essentiellement du sémiotexte, mais qui dépend de tout cela, hein, c'est-à-dire de l'usage du corps, de l'usage de la voix, de l'usage de la technologie, hein, pour produire des types d'œuvres qui n'ont évidemment plus rien à voir avec l'orature traditionnelle. Hein. Voilà. Alors elle dit, par exemple, hein, le micro n'est pas simplement un moyen d'amplification, il est peut-être aussi quelque chose, mais elle vient de parler de la voix comme instrument, avec lequel on joue en utilisant, alors j'aime bien qu'elle emploie ce mot-là, parce que c'est le mot que j'emploie, ses potentialités. Hein. Donc je dis... l'exploration et l'exploitation des potentialités du médium. Mais quand je dis du médium, vous avez compris, de certaines zones du médium, de certaines composantes du médium. Hein, le micro n'étant qu'une composante, hein, le célèbre magnétophone de Bernard Heitzig étant une composante d'un médium beaucoup plus large, hein, qui comprend son corps, sa voix, son cerveau, nos corps, nos oreilles, nos cerveaux, la dimension scénique, etc., 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 hein, l'enregistrement, tout le traficotage qu'on peut faire sur la bande magnétique. C'est-à-dire que je suis toujours gêné par le mot médium, parce qu'il a l'air de figer, de fixer les choses, de les objectiver, alors qu'on a toujours affaire à des configurations qui sont extrêmement mouvantes, qui sont complexes, qui contiennent des composantes très hétérogènes et des couches aussi très hétérogènes, hein, du sémio au techno, etc. On a vraiment quelque chose de complexe. Et c'est pour ça que mon élaboration technologique et les exemples que je donne est toujours, elle aussi, complexe, mouvante, pas encore fixée. Et j'espère d'ailleurs qu'elle ne sera jamais fixée. Hein. Mais bon, je fais des petites fixations de temps en temps. Hein. Donc il y a un article que j'avais mis dans le volume Poésie et médias au XXe siècle, édition du Nouveau Monde, c'était les actes d'un colloque. Là, j'ai exposé le premier état, hein, de tous ces concepts. Donc on va écouter Bernard Heitzig, qui est évidemment l'un des pionniers. Voilà, donc c'est un texte assez ancien, hein, qui s'appelle Bilan ou mâcher ses mots. Alors, il a un intérêt double. Il est très englobant. J'ai été de plus en plus englobant, hein, du moins englobant au plus englobant. Alors, il est très englobant parce que, vous allez entendre, il y a du sémiotexte, hein, voilà, donc des phrases. La grosse partie du sémiotexte est d'ailleurs totalement empruntée. C'est donc un found poem. Hein, c'est un texte sur la digestion. Mais il rajoute quelques petites bizarreries. Hein. Et puis, il y a une autre partie, donc, qui est sur l'autre piste du magnétophone, puisque c'était fait sur des magnétophones très archaïques encore. Hein. Et celui-là, il est de sa plume ou de sa machine à écrire, mais il est très simple. Hein, et vous allez entendre, il dit souvent « ce texte est médiocre, c'est sûr voilà. ». Alors évidemment, ça, c'est le sémiotexte que l'on peut retrouver dans les partitions. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un gros volume publié aux presses du réel avec l'ensemble des partitions de Bernard Heitzig, sans disque. Ça c'était le coup d'audace paradoxale, et c'est très intéressant de l'avoir sans le disque aussi. Donc, et qui manifeste le sémiotexte, n'est-ce pas, de base. Bien. Mais déjà, il est disposé en deux colonnes, rendant compte du fait que les deux morceaux du texte hein, apparaissent sur deux pistes du magnétophone. À l'écoute, bien entendu, ils apparaissent simultanément. Quand on le lit sur la partition, c'est pas simultané. Hein, on lit d'un côté ou on lit de l'autre. On peut zioter, bien sûr, hein, mais ce n'est pas la simultanéité audio. Donc là encore, importance de ces questions médio-poétiques. Alors, il faut, pour bien comprendre, que je dise, là on a la version studio enregistrée, mais c'est un poème, comme la plupart des poèmes de Heitzig, qui est fait pour la scène. Hein. Donc Heitzig est délibérément un audio-scéno-poète. Il fait donc des audio-scénotextes. Il n'a pas utilisé la vidéo, hein, même s'il y a des vidéos de lui lisant. Il faut séparer ces choses-là. Quand il le fait live on stage, quand il le faisait live on stage, il ne disait rien. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a quelques textes de Heitzig hein, où on se dit, tiens, le poète sonore, il ne dit rien. C'est-à-dire le texte défile le texte, hein, défile par les enceintes, hein, donc il est enregistré. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Alors, il est d'abord avec quelques personnes qu'il a choisies, hein, devant le public, et on commence, lorsque le texte commence, quand on commence à entendre le texte, on commence à manger, je dis « on » parce que j'ai fait partie de... on commence à manger un gâteau. Hein, en général, un éclair, un gâteau à la crème, un truc pas facile à manger comme ça, hein, parce qu'il faut tenir tout le temps du déroulement du texte. Sauf lui qui, à un moment donné, descend dans le public et distribue des langues de chat de façon que chacun des membres de l'assistance mange la langue de chat pendant qu'il entend ce texte sur la digestion. Donc, je vais arrêter là, puis bon, je donnerai deux mots de commentaire, mais je crois que c'est assez facile à comprendre. Mais ce qui est très important, c'est ici la dimension de l'action hein, que Heitzig a rajoutée. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1963, hein, il a renoncé à l'étiquette poésie sonore au profit de l'étiquette poésie action, qui lui semblait mieux convenir, justement, et je dirais moi, à la dimension médiopoétique réelle de ces petits travaux. Je dis petits travaux comme parce que Rob Grillet aimait bien dire mes petits travaux. Après, il a dit mon œuvre, mais j'aimais bien quand il disait mes petits travaux. Voilà. Donc,
c'est dans la bouche que débute la dissociation des aliments, d'où le terme de bouche. Eh oui, les aliments s'y mélangent à la saline, ce fluide aqueux. Mais il ne faut pas négliger le rôle de la langue et des dents qui, bien que purement mécaniques, leur fait briser la nourriture en morceaux relativement petits, assurant de ce fait un mélange adéquat. adéquate de l'ensemble. Est-ce tout? Non. Craindrais-tu, mais après avoir été ainsi bouleversé, en partie digéré, et oui, totalement bouillé par la salive, eh bien, la nourriture est capable, mais encore, c'est-à-dire que, eh bien, voilà, elle se rentre à l'estomac. Enfin, comme? Comment? Voilà ça, grâce à un mouvement rythmé des muscles du tube digestif. Enfin, l'entraîne, le va cesser de l'entraîner, du reste, ce texte est médiocre. C'est sûr. Au cours de ce séjour dans l'estomac, il y a une sorte de sac musculaire.
Absolument.
C'est adoré à l'aliment.
Sans doute.
Et stérilisé par l'acide chlorhydrique.
Alors, sa paroi.
Et il s'alore à un mucus pour former une sorte de pâte.
Le chien. Cependant,
puis un muscle rond ou sphincter. Mais il en fait son passage dans la
tissette
et la ligne se produit de grandes sécrétions d'enzymes.
Et
c'est en fait,
voilà, oui,
enfin bien que se termine la distillation chimique
des enveloppes
de la nourriture.
Eh bien, voilà,
être entendu.
Enfin,
les gants déversent sur elle l'eau.
Voilà,
que le foie,
enfin,
qui s'introduit dans l'intestin.
Eh bien, canal,
dit Colédoc,
que ce texte est médiocre,
c'est sur le film bouclette, ce qui est souligné là
en haut.
Plan.
Absolument,
qui a un secret de sucre, ma foi,
sans qu'il le dise,
que certains enzymes enfin,
extrêmement
puissants, contenus dans le
sucre,
agissent sur les hydrates de carbone et les transforment en sucre.
Et cependant,
l'intestin.
L'intestin.
Mais, eh bien, qu'est-ce à dire?
Sa paroi l'épaisse.
À dire, un grand nombre de plis, couverts de villosité,
eh bien,
les voies de gants, irait jusqu'à lui donner,
mais en
un aspect velouté.
Eh bien, voilà.
Le tout très agité.
Enfin,
car des
salades
fleuries s'écoutent abondamment répandues,
enfin,
tant circulaires que longitudinaux,
eh bien,
un travail à l'unique.
Ce texte est médiocre.
Sans repos, en perpétuel mouvement, il se contracte,
se relâche,
se contracte et se relâche et pousse
absolument
tout état de cause. De façon lente et certaine, les aliments,
alors,
dans le sens de la digestion.
Alors
ceux-ci, au fur et à mesure que leur sont ajoutés,
et digestifs,
cependant, de devenir de plus en plus liquides, au point d'en être
lui-même,
en réserve d'une molécule, certes, mais susceptible alors,
seulement,
de passer au travers des parois de l'intestin.
Et eh bien,
c'est le but principal.
Le
but même de la digestion.
Eh bien, voilà.
Il faut connaître enfin,
parfois,
et que
voilà,
la partie de la nourriture devenue
enfin,
est ainsi absorbée dans l'intestin grêle.
Le gros intestin
dépend
surtout de l'absorption de l'eau.
Ce texte est
médiocre.
Afin de savoir s'il y a liquéfié les aliments pour leur permettre de se déplacer plus aisément dans l'appareil digestif,
absolument
reste également rendu plus facile
sans doute
par une sécrétion de mucosité.
Alors,
ce qui va sans contribuer d'ailleurs.
À la formation
de matière fécale,
substance biaise
de nourriture non digérée.
Mais
ces résidus alimentaires non utilisés sont
expulsés
au dehors par la défécation, comme il se doit.
Mais il en est ainsi.
Qu'est-ce qu'il
a alors qu'il est sorti?
A-t-il terminé donc?
Oui,
le gros intestin. Comme il
se bien.
Et voilà.
Mais encore,
substance
biaise. Bien, voilà.
Enfin,
acide
zénique. Voilà
ça.
Acide gras.
Enfin,
entre autres. Elle passe.
Eh bien, ce texte est médiocre.
Et sont absorbées,
c'est sûr,
par les cellules du corps.
Sans doute.
Pour leur plus grande satisfaction.
Absolument.
Sans doute.
Alors,
leur usage,
oui, c'est tout.
Leur rôle, ne sont pas négligeables.
Et cependant,
la vie de chaque jour.
Voilà. Ne sont pas négligeables dans la vie de chaque jour, c'est en même temps un manifeste, évidemment, de ce poète qui a revendiqué l'immersion de la poésie dans le quotidien. Hein. C'est-à-dire que c'est les chaussures neuves du poète, hein, dans le carrefour apollinarien. Ce texte est médiocre. Bon, de quel texte parle-t-il, hein? Voilà, alors, du sémiotexte, uniquement du poème trouvé, de l'ensemble constitué. est médiocre par rapport à quelle valeur? Évidemment, par rapport à une certaine idée qu'on se fait de la poésie, hein, justement celle qui n'est pas complètement immergée dans le quotidien. Bref, le sens du sémiotexte manifesté par la voix, il est déjà complexe, mais on voit à quel point l'action, n'est-ce pas, scénique, que réalise Heitzig, rajoute des éléments, je dirais aussi, perlocutoires, hein, à cet ensemble. Voilà, donc ça fait partie des choses que je voulais vous montrer. Si j'avais 3 minutes, je vous commenterais un tout petit peu le tableau, je peux. Alors, là, j'ai mis, si vous voulez, la partie médiologique pure. Hein, c'est-à-dire l'évolution de la société en termes de recomposition autour d'un médium dominant, hein, pour aller vite. C'est-à-dire que je suis parti de Régis Debray, assaisonné de McLuhan, hein, mais je me suis aperçu que tout ça était un peu simpliste pour moi, pour ce que je voulais faire. Hein. Et donc j'ai rebaptisé, mythosphère, ce que Debray appelle les médiasphères. Hein. Moi, j'ai rebaptisé médiosphère, parce que justement, il ne s'agit pas de média, mais bien de médium. Hein. Donc, la première médiosphère qu'on peut repérer, que lui appelle logosphère, mais logo, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tandis que mytho, c'est mythos la parole, et c'est aussi les mythes, hein, donc c'est véritablement la période de... c'est la période de l'orature, hein, c'est-à-dire où l'on compose, un peu à la manière d'Homère, n'est-ce pas, des orotextes qui sont des mnémotextes. Et après arrive évidemment l'écriture, le livre. Alors, pour simplifier, j'ai appelé bibliosphère ce qu'il appelle graphosphère, Régis Debray, hein, que j'ai divisé en la période manuscrite, hein, donc la chirosphère, et la période où apparaît la typographie, hein, donc la typosphère. La typosphère, elle dure assez longtemps, enfin, elle ne dure pas longtemps, puisque nous avons vu dans la frise des siècles et des millénaires, hein, que tout ça est peu de chose. Mais arrivent d'autres... Alors là, on peut dire qu'à partir de... Même la chirosphère, on utilise des outils, on utilise des graphes pour faire des encoches dans la roche ou bien des plumes, enfin des. Voilà. Et donc, c'est déjà une technique. Mais si on veut, on peut dire qu'on a une technique qui se. Une technologie qui se sépare du corps avec l'entrée dans la galaxie Gutenberg, hein, voilà, donc la typosphère. Et puis, arrivent d'autres modes de mécanisation, l'image, du geste, tout ce qu'on veut. Et on va entrer dans la photosphère avec l'invention de la photographie, d'un certain nombre de procédés de reproduction, etc., qui va vite être rejointe par l'invention du phonographe. Ça va donner le cinématographe. Et c'est ce que j'appelle la photophonosphère, dans cet ordre-là, puisque c'est l'ordre d'arrivée. Juste un truc en passant, on peut faire... Comme au cinéma, on peut faire un arrêt sur l'image, mais on ne peut pas faire un arrêt sur son. Hein. Donc ça, c'est quand même la grande disjonction entre l'image et le son. Hein. Et voilà. Voilà. La photo, c'est une image arrêtée. On peut arrêter l'image du film, ça s'appelle arrêt sur image. Si vous arrêtez la bande magnétique ou le disque, il n'y a rien. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant du point de vue médiologique et aussi médiopoétique. Ensuite, évidemment, on va avoir l'électrification de tout ça, et ça donne l'audio-vidéosphère. Ça apparaît à peu près en même temps, puisque c'est le phonographe qui s'électrique, qui devient électrique, le cinéma aussi, et ça marche ensemble, puisqu'on va avoir le cinéma parlant, la télévision, enfin, tout ça. Hein. Et donc, ça va donner des types de compositions remodelés, du moins pour les artistes qui prennent en compte, hein, ces modifications, parce qu'on peut continuer, bien sûr, et d'ailleurs il y a des régions dans le monde où on continue l'orature, par exemple, hein, mais on peut aussi continuer d'écrire à la main et même de publier des textes calligraphiés, hein, etc. C'est-à-dire que, je crois que c'est, on n'est pas les premiers à le remarquer, que le nouveau médium, ou plus exactement la nouvelle configuration médiologique, ne chasse pas, mais déplace toutes les anciennes configurations. C'est-à-dire il y a une recomposition médiologique constante, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le médium c'est le livre, le médium c'est le disque, le médium c'est ceci. C'est une configuration médiologique dans laquelle tels ou tels éléments prennent la position centrale dominante et ça recompose le reste. Regardez le prix maintenant des manuscrits d'auteurs. Hein. Ben ça, c'est parce qu'on est, on est en train de sortir de la typo, de la typosphère. Hein. Et le prix des manuscrits d'auteurs monte. Et l'intérêt des universitaires pour les manuscrits d'auteurs aussi, hein, avec la génétique. Voilà. Donc ça, c'est des effets de transformation médiologique. Enfin, évidemment, on entre, on l'a vu, hein, dans la, ce que j'appelle la numérisphère, on peut dire la digisphère, etc. Donc on va avoir une numériture ou une digiture, ou vous l'appelez comme vous voulez. Hein, j'essaye d'avoir des systèmes, c'est pas pour singer Jeunette, mais pour essayer d'organiser tout ça. Et puis, je m'interrogeais sur intersphère pour Internet, hein, ou webosphère peut-être, parce que là, ça serait amusant parce qu'on aurait l'intertexte. Hein, voilà. Bon, donc, voilà. Et alors, ici, j'ai mis ces éléments, hein, le sémiomédium qui se manifeste par le grapho ou le phono, c'est-à-dire ici la voix, l'écrit, etc. Donc, c'est un peu schématique. Vous pouvez m'interpeller sur certains aspects de ça, mais comme j'avais pas eu le temps, évidemment, j'avais pas inscrit le biomédium dont je vous ai parlé, mais je dois aussi inscrire le sociomédium, parce que, bien entendu, médiologiquement parlant, par exemple, nous sommes ici, n'est-ce pas, si c'est moi qui parle, par exemple, vous n'êtes pas les seuls à composer mon sociomédium, parce qu'il y a tout ce qui s'est tramé avant. Hein, nous sommes des universitaires, des poètes, des ceci, des gens intéressés par tel ou tel aspect. Hein, il y a l'existence des colloques de Cerisy. Il y a toute une organisation et tout ça, ça participe, hein, du sociomédium. Donc le sociomédium, c'est un truc très très intéressant aussi à étudier. Hein. Par exemple, j'essaye d'étudier ça avec une amie qui travaille sur le slam, par exemple, hein, donc le sociomédium. Alors, et dans le slam, c'est très intéressant, mais pas seulement dans le slam. Il faut aussi tenir compte du lieu où l'on est, n'est-ce pas, hein, donc ça s'appelle le topomédium. Et même du temps, de la durée, par exemple, la durée de... là, je suis en train de la dépasser, hein, parce que le chronomédium. Et vous savez que les slameurs, souvent, se limitent à 3 minutes, à 5 minutes, etc. Hein. Donc, on a toutes ces dimensions-là qui peuvent interférer. Et puis, je vous remercie de votre attention, très gentille.